France Info.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Informés du Dimanche, l'émission de débat de France Info. Deux batailles, l'une sociale, l'autre politique au sommaire de cette émission. La bataille du rail d'abord, et c'est Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui donne les premiers coups. C'était ce matin dans le journal du Dimanche. Le statu quo n'est pas possible, prévient la ministre, qui n'exclut pas de remettre en cause le statut des cheminots. À la droite de la droite, Marine Le Pen n'a pas dû passer le meilleur week-end de l'année, menacé par son père dans la presse. Son ancien bras droit, Florian Philippot, a lancé son mouvement cet après-midi. Les Patriotes, c'était à Arras. On reviendra aussi tout à l'heure sur la polémique Wauquiez après la diffusion des propos sans filtre du président LR devant des étudiants. Le service national qui va faire son retour en France. Et puis, cette fusillade en Floride, 17 morts mercredi dans un lycée. Pour débattre ce soir, à mes côtés, Maud Guillemin, journaliste et documentariste. Vous êtes spécialiste de la vie politique française, notamment et de la gauche. Bonsoir Maud.
Bonsoir.
Patrick Appelmüller, directeur de la rédaction de l'Humanité. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Et puis également autour de la table, Alban Micosi, rédacteur en chef adjoint du service international. Bonsoir. De France 2. Bonsoir Alban. Faut-il se préparer à un conflit social long et dur avec la CGT ? Dans une interview au JDD ce matin, Elisabeth Borne confirme que le gouvernement est prêt à s'attaquer au statut des cheminots. Le dernier qui s'était frotté au régime spécial de la SNCF, c'est Alain Juppé en 1995. Il avait dû renoncer après 3 semaines de grève. Le gouvernement va-t-il oser cette fois-ci, Patrick Appelmüller ?
En tout cas, il ose. Le rapport Spinetta n'est pas un simple rapport d'étude. C'est une feuille de route, si je puis dire, pour la SNCF. C'est en tout cas un plan de marche pour privatiser l'entreprise, pour démanteler toute une série de fonctions de service public, notamment de desserte des territoires. Et puis, on en profite pour mettre en cause les statuts des cheminots. Parce que l'objet des statuts des cheminots, d'une certaine manière, ne sont qu'un élément qui dissimule le fait que les usagers de la SNCF vont se voir privés des services dans l'ensemble des territoires nationaux d'une SNCF performante. Il s'agit de la faire rentrer dans le cadre de la concurrence et de permettre à des capitaux privés de s'engouffrer dans le marché du ferroviaire et d'y gagner beaucoup d'argent. C'est aussi la même, c'est aussi la même chose que ce qui se passe pour la fonction publique. Le plus grand plan social depuis l'après-guerre, 120 000 social entre guillemets, ouais. 120 000 fonctionnaires qui seraient virés, c'est pour supprimer des missions de service public. C'est pas seulement pour supprimer et s'attaquer à des fonctionnaires.
Jean-Christophe Ploquin, le gouvernement va suivre les recommandations du rapport.
Alors oui et non, c'est-à-dire, je suis pas tout à fait d'accord. C'est quand même un rapport, c'est pas une feuille de route. Donc le gouvernement, il va quand même piocher à l'intérieur du rapport Spinetta.
On rappelle ce qu'il y a à l'intérieur.
Oui, donc il y a plus d'une quarantaine de propositions. Mm-hmm. Et effectivement, on en a retenu certaines qui étaient effectivement le fait de revenir sur le statut des cheminots et aussi les liaisons qui sont peu fréquentées et qui sont très coûteuses. Il y a évidemment des propositions pour en supprimer quelques-unes. Donc ce qui est évident, c'est que le chemin de fer est vraiment un mode de transport qui a d'énormes atouts en France, qui tient énormément au cœur des Français, qui sont très attachés, qui l'utilisent extrêmement souvent, que ce soit dans les liaisons de banlieue ou que ce soit les TGV. Mais effectivement, c'est une entreprise qui est extrêmement endettée et qui, pour poursuivre son développement, il faut pouvoir... soit c'est l'État, effectivement, et le contribuable qui va abonder en permanence et reboucher le trou de la dette, soit à un moment, il faut ouvrir effectivement des capacités de financement autres. Et c'est tout l'objet de la transformation. Et je pense que le gouvernement a vraiment raison de réfléchir à un nouveau modèle pour la SNCF.
Alors on va revenir sur les mesures en précision, mais la CGT appelait dès vendredi à un conflit social, en tout cas à une journée de mobilisation. C'était chez nos confrères de France Inter. Je vous propose d'écouter le leader du syndicat, Philippe Martinez.
Évidemment, on ne laissera pas faire n'importe quoi. Il y a déjà une manifestation nationale de prévue par les cheminots le 22 mars. Donc vous voyez, les cheminots sont mobilisés et ils ne laisseront pas casser leur outil de travail. Forcément, les cheminots défendront le service public, leur emploi et leur statut.
Donc vous allez bloquer la France ?
Moi tout seul, non.
Maud Guillemin.
Alors ça va être plus difficile hein, parce que vraiment la mise en place c'est déjà faite petit à petit à la SNCF. Les mentalités ont beaucoup changé. Il y a toujours des cheminots, certes, mais ce statut qu'ils défendent depuis maintenant des années et des années, régulièrement, il perd de sa force. On sait en plus que les régions maintenant, dès 2019, sont prêtes à accepter la mise en concurrence du TER. C'est prévu pour 2020 pour le TGV. Ça veut dire que même sur le terrain, ça va être plus difficile à défendre. Ce statut, comme il y a eu à la Poste qui a changé, ce statut qu'on promet hein, de faire perdurer, même si les entreprises changent, même si la mise en concurrence se met en place, les cheminots garderaient leur statut dans la nouvelle entreprise. C'est comme ça qu'on défend le principe, en disant, mais sauf que pour tous les nouveaux, c'est plus possible, ça ne peut plus exister. Et ça, en effet, c'est la nouvelle ère qui s'est mise en place, et déjà à la Poste, déjà un peu partout, sans grosse difficulté.
Mais est-ce qu'il faut s'attendre à un conflit social, à une nouvelle paralysie de la France à Bormicosi? On vous a pas entendu sur cette question.
On va bien voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a chez le cheminot, effectivement, une tradition de protéger ce qu'ils appellent leurs acquis sociaux. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde nos voisins se sont engagés dans ce type de mesures. Alors avec plus ou moins de succès. Hein. Le modèle anglais est souvent cité comme le modèle vers lequel il ne faut pas aller. Mmh. Nous, on a regardé de près, par exemple, le modèle allemand, où des entreprises privées, sous couvert des régions, peuvent, par exemple, exploiter les TER. Ce qui est sûr, c'est que le système français tel qu'il est actuellement ne fonctionne plus. On est à une régularité, j'ai noté 90% de taux de ponctualité en France. Ça veut dire 5 ou 6 points
la
derrière chacun de nos voisins.
D'ailleurs, parle de mauvaise
qualité
de service.
Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste réalité, à leur historique aussi. La première chose, c'est que c'est pas seulement la CGT, c'est l'ensemble des syndicats de cheminots qui protestent. Il faut le rappeler. C'est pas un conflit entre Madame Borne et la CGT. La deuxième chose, on parle de l'endettement qui paralyse la SNCF. Mais d'où vient-il cet endettement ? C'est la SNCF qui a été amenée à porter une dette de l'État qui avait décidé de projets d'aménagement. C'est pas la SNCF qui gère mal ses finances, c'est l'État en l'occurrence.
Allez, on fait une pause, l'info à 20h10 avec Noémie Bonin.
Et on apprend ce soir la mort de Didier Lockwood, grand violoniste français de jazz. Il venait d'avoir 62 ans. Didier Lockwood a été marié à la chanteuse lyrique Caroline Casatu, a été maire adjoint également à la culture à Damary-les-Lys en Seine-et-Marne entre 2014 et 2016. Plusieurs drames en montagne aujourd'hui. Un père et sa fille sont morts dans une avalanche à Val d'Isère. Ils skiaient sur une piste fermée à cause justement des risques de coulées de neige. Toujours dans les Alpes, un randonneur à ski âgé de 30 ans est tombé au-dessus de la station de la Giette. Une corniche a cédé sous son poids. Autre accident enfin, cette fois dans l'Ariège. Un jeune skieur a fait une chute mortelle après un saut au Mont d'Olme alors que la station fêtait le retour de la championne olympique Perrine Lafont. Une fusillade en Russie dans la région du Daghestan. Aujourd'hui, un homme a tué 5 femmes à la sortie d'une église orthodoxe, selon les autorités locales. Elles précisent que l'assaillant est mort. Le Daghestan est l'une des régions les plus pauvres et instables de Russie, à majorité musulmane. Elle est la cible régulière d'attaques du groupe État islamique. Et puis en Ligue 1 de foot, Lyon concède le match nul à Lille, 2-2. L'OL menait pourtant à la pause 2-0. Les Lyonnais n'ont plus gagné depuis 4 matchs en championnat. Match nul également tout à l'heure entre Nice et Nantes, 1 partout.
France Info.
Les informés, Pierrick Bonneau. Et on parle dans les informés de ce rapport Spinetta hein, qui est censé réformer la SNCF. Il est aussi question, on l'entendait, de fermer de nombreuses petites lignes. On écoute l'auteur du rapport, hein, l'ancien PDG d'Air France KLM, Jean-Cyril Spinetta, qui évoque les TER, les trains régionaux.
Les systèmes de transport express régionaux, coût 4 milliards d'euros par an, recettes commerciales 1 milliard, subventions 3 milliards. On n'est pas dans un domaine classique, on est hors marché.
On est dans le service public.
En revanche, on doit s'interroger sur ce qu'est le transport ferroviaire. C'est un transport de masse. C'est un transport de masse. Et lorsqu'il y a des très petits flux de trafic, il n'a aucune justification, ni économique, ni sociale. Et le service public de la mobilité des personnes peut être assuré, et partout assuré, par d'autres moyens que le système ferroviaire.
Jean-Cyril Spinetta, chez nos confrères de France Inter, Alban Micosi, aucune justification économique. Hein.
Alors, je regardais un peu ces petites lignes dont il parle, qui sont très déficitaires. Alors, la plupart se trouvent dans des zones de montagne. Ce sont les Vosges, le Jura, les Alpes du Sud, le Périgord, le Rouergue. Alors, Oui, effectivement.
Les montagnes du Périgord sont quand même assez modérées. Hein.
Oui, enfin, c'est un pays de collines quand même aussi. Oui, mais bref, vous avez raison, on va dire que le Périgord n'est pas une zone de montagne. Mais par rapport aux autres, oui, les autres sont des zones de montagne. Et ce qui est vrai, c'est que dans ces régions-là, le train joue quand même un rôle que le bus, le car, a du mal à jouer. Parce que, de temps en temps, les routes sont pas fréquentables, notamment l'hiver, en cette saison par exemple. Et les élus locaux de ces pays ont beau jeu de vous dire, mais nous on tient au train parce qu'il rend un service que la route aura du mal à jouer. Ce qui va se passer, c'est comme souvent la même chose quand on parle de fermeture de petites lignes, est-ce que vous avez des élus locaux puissants ?
Ouais.
Et c'est les élus locaux
qui
puissants
vont pouvoir faire
qui
pression.
Vont faire en pression avec ouais. plus ou moins de réussite. Il y a des lignes qui vont fermer. Et d'autres pas.
Parce que c'est très politique. Hein. Ils savent que c'est très important aussi pour la survie de leur région, même si parfois c'est des lignes qui sont en effet très peu utilisées. Ces lignes, elles continuent de structurer encore des régions, et surtout des régions enclavées, des régions peu peuplées. Et elles restent encore, même aujourd'hui, un appel d'air pour l'économie. Et le bus, les cars, malheureusement, peut-être que c'est faux au jour le jour, au quotidien, mais dans l'imaginaire collectif, ne pas avoir de train, c'est vraiment être au milieu de nulle part.
Je trouve que c'est un peu un crève-cœur, cette question des listes, des petites lignes. Parce que récemment, j'ai pris le train qui allait de Bordeaux à Bergerac. Mm-hmm. Et on voit bien que c'est toute une micro-société qui circule dans ces trains-là. Alors parfois, effectivement, ils sont pas très remplis. Parfois, au contraire, il faut presque rester debout pendant une bonne partie du trajet. Mais en même temps, voilà, ils ont vraiment cette fonction de lien extrêmement fort entre des villes moyennes avec la métropole. Donc voilà, il y a un enjeu effectivement de lien territorial et de lien social extrêmement important, mais de fait, c'est souvent des lignes très déficitaires, c'est souvent des lignes qui sont polluantes en termes d'environnement, et voilà, donc comment avancer
le déficit
schéma,
justement.
On a un schéma de transport en France qui est totalement délirant. Ouais. Je regardais tout à l'heure, on a 165 aéroports en région française. 165, c'est-à-dire pratiquement deux par département. Je connais des départements où effectivement il y a 2-3 aéroports. Vous avez des lignes de TGV qui font la fierté de la France, alors sans doute légitime, là n'est pas la question, mais il manque très clairement un réseau région-région, ville-ville. Alors, peut-il se faire en train, doit-il se faire sur la route ? Là, les experts ont un arbitrage à rendre, mais ce qui est sûr, c'est que le modèle français, tel qu'il est absurde.
Patrick Appelmüller, simplement le déficit abyssal, hein, 2 milliards 600 millions d'euros, il va bien falloir le résorber d'une manière ou d'une autre.
C'est beaucoup plus que ça, vous oubliez le déficit de Réseau ferré de France, qui est devenu maintenant le réseau. C'est pas loin de 50 milliards, c'est 42 et quelques plus un déficit. Non, ce déficit est très important, mais évidemment on a fait glisser sur la SNCF toute une série de déficits. Ce qu'il faut regarder quand même, c'est que aujourd'hui une politique de désorganisation de la SNCF a été pratiquée. D'ailleurs, toutes les régions protestent. Par exemple, les trains régionaux ont été adaptés uniquement au réseau TGV. Et maintenant, les trains régionaux ne permettent plus d'emmener des lycéens à l'heure au lycée. Ils partent après. Donc, les gens ne prennent plus le train. Si c'est pour les remplacer par des hordes de cars sur les routes, avec les questions de sécurité qui sont afférentes, des questions de pollution, alors qu'on prétend travailler à une grande politique pour réduire l'effet de serre et le réchauffement climatique, je pense que c'est pas très sérieux. Aujourd'hui, on accuse de la rage une SNCF qu'on a étouffée sous la dette en lui permettant pas de refaire des réseaux, de mettre en place des liaisons efficaces, et aujourd'hui, on essaie de l'accuser de la rage.
Alors justement, comment est-ce qu'on rend la SNCF plus compétitive aujourd'hui ?
Je pense qu'il
faut l'un d'entre vous a la solution.
Il faut apurer la dette. Et donc là, je pense que l'État va jouer un rôle à un moment donné. Mais l'État, c'est nous, les contribuables. Et donc, mais il faut, en échange de cette stratégie, modifier les règles de fonctionnement de la SNCF, les règles de gestion, et permettre qu'ensuite, finalement, la SNCF, dans une activité commerciale, puisse continuer à investir et à servir ses clients. Moi, quand j'entends Monsieur Martinez tout à l'heure dire l'outil de travail des cheminots, c'est aussi le service rendu aux clients. Et donc, je pense que
dans cette interview que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention, c'est précisément cette priorité qu'il a donnée en disant: les usagers sont directement impactés, c'est d'abord eux qu'il faut écouter, et c'est d'abord pour eux qu'il faut penser à la SNCF. D'ailleurs, quand on pense aujourd'hui à la SNCF et à ses moyens, je ne vois pas pourquoi on fait payer aux salariés les efforts. Lorsqu'on est en train de parler de la SNCF, vous croyez que la concurrence va se lancer sur les lignes qui sont déficitaires ? Vous croyez que les grandes sociétés de transport privées qui veulent faire de la rentabilité, qui veulent faire du capital, vont maintenir ces dessertes régionales?
Ça, je pense que,
cet aménagement du territoire,
les exemples européens ont montré que dans certains États, ça a été le cas.
Et oui,
en Allemagne, par exemple,
en Allemagne, ils ont joué à la Deutsche Bank. Et on dit que la Deutsche Bank marche extrêmement mal. Et la Deutsche Bank est aujourd'hui incapable d'investir parce que précisément, c'est le privé qui lui taille des croupières. On lui demande à elle d'investir sur le réseau, ce qu'elle ne peut pas faire.
La Deutsche Bahn. Je ne sais pas pourquoi la Deutsche Bank était...
La Deutsche Bahn.
La Deutsche Bahn, on lui donne un carnet de route qui est, si je peux me permettre, plus étroit que celui de la SNCF. La SNCF, aujourd'hui, fait tout.
Elle devait s'occuper du réseau, elle devait s'occuper de tout. En effet, c'était beaucoup, beaucoup plus large. Et la question, est-ce que s'il y a plusieurs opérateurs sur une même ligne, c'est une des idées qui pourrait être mise en place, notamment sur le TER. Certes, mais là encore, comment ça va se passer par rapport à la dotation des régions? Comment ça va se passer par rapport à l'utilisation du réseau qui est dans un état lamentable, hein? Là, on s'en rend bien compte. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en plus, ça coûte une fortune. Pourquoi il y a des pannes à répétition? C'est parce que justement, ça n'a pas été réparé régulièrement. Pourquoi régulièrement on a des problèmes sur le TGV, des ralentissements? Parce que là, il y a une politique de travaux énorme. Et aujourd'hui, du coup, la SNCF pâtit également de ça. Et si la concurrence arrive, qui va s'occuper de tout ça? Comment ça va être distribué par rapport à la SNCF? Ça, c'est encore très flou.
Alors, sur le calendrier, cette réforme n'est pas prévue avant 2020 pour les TGV, 2023 pour les TER. Réunion demain au ministère des Transports avec Elisabeth Borne et les syndicats. Ça s'annonce tendu, cette réunion?
Oui, sûrement, oui,
parce que vous êtes tous d'accord là-dessus.
Les quatre syndicats ont annoncé un rejet du rapport Spinetta, donc il va y avoir des discussions assez fortes.
Mais avec les élus locaux aussi, hein. Vous savez, quand on est en train de supprimer une ligne comme Cambrai-Douai, qui n'est pas en montagne, Cambrai et Douai, c'est des zones d'activité. Et je pense pas que les populations sur place laisseront faire avec plaisir ce type de politique.
Allez, l'info à 20h20, c'est avec Noémie Bonin.
C'est dramatique. Voilà la réaction de Perrine Laffont, la jeune médaillée olympique, après la mort d'un skieur aujourd'hui au Mont-Dolme en Ariège, dans la station justement de la championne qui fêtait son retour. Une avalanche a par ailleurs fait deux morts à Val d'Isère. Un père et sa fille, ils skiaient sur une piste fermée pour raison de sécurité. Autre accident enfin, toujours aujourd'hui au sommet de l'Étale dans le massif des Aravis. Une corniche a cédé au passage d'un randonneur à ski. Un grand musicien est mort aujourd'hui, Didier Lockwood. Il avait 62 ans, violoniste de jazz. Il avait remporté plusieurs prix. Il a reçu aussi la Légion d'honneur en 2003. Il était également impliqué dans l'enseignement de la musique. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne. Les mots aujourd'hui de Florian Philippot à l'occasion du congrès fondateur de son mouvement Les Patriotes devant quelques centaines de participants à Arras dans le Pas-de-Calais. Florian Philippot a quitté le Front National fin septembre dernier. Et puis le monde du sport unanime ce soir après l'exploit de Martin Fourcade. Il devient donc le Français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver grâce à sa nouvelle victoire ce midi dans la Mass Start en biathlon. Ce dimanche a été particulièrement riche pour les tricolores avec deux autres médailles grâce à Alexis Pinturo et les relayeurs du ski de fond.
France Info.
Les informés, Pierrick Bonneau.
Le service national universel verra bien le jour. Le chef de l'État a remis les pendules à l'heure cette semaine après quelques jours de flottement en confirmant qu'il serait obligatoire ce service national universel en le recentrant sur un engagement plus civique que militaire. Alors on a à peu près entendu tout ces dernières semaines, aussi bien du côté du gouvernement que des parlementaires. Est-ce qu'on sait à quoi va ressembler ce service national?
Jean-Christophe Coquin. Alors moi j'étais mardi à cette soirée, à cette rencontre avec des journalistes durant lequel il a, comme vous dites, remis les pendules à l'heure, mais en fait il les a pas vraiment beaucoup remises à l'heure parce que lui-même a dit directement, écoutez, c'est vrai que jusqu'à présent, moi-même, je suis pas très sûr de ce que je veux vraiment. Ouais. Donc, on est encore dans une phase de réflexion. Et ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a expliqué, c'est que il pense que il faut vraiment un temps où les jeunes générations, par classe d'âge, puissent se retrouver.
Combien de temps, justement? On parle de 3 à 6 mois.
Voilà, c'est ça. Il a parlé et il a expliqué qu'il voulait pas non plus que ce soit une période qui vienne, par exemple, briser un parcours étudiant. Que pendant 6 mois, tout à coup, un étudiant qui est en année de licence ou de master, je sais pas, soit obligé de s'interrompre pour faire ce service national. Donc ça, il est soucieux évidemment d'éviter ça. Et donc il a parlé de 3 mois, mais aussi de 6 mois. Donc je crois que lui-même encore est pas tout à fait fixé. C'est vrai qu'il y aurait un caractère obligatoire,
des possibilités, pas le rapport parlementaire,
hein. Ouais, possibilités de formation militaire, mais aussi pas forcément. Et voilà. Donc on est encore dans cette phase de réflexion, de maturation. Je pense qu'il y a vraiment un objectif de créer du lien. Il a vraiment cette idée que un jeune citoyen a des droits, mais aussi des devoirs vis-à-vis de la nation.
De cohésion nationale.
Exactement. Mais quant aux moyens, je pense que c'est très compliqué. On sait que le ministère de la Défense n'est pas très chaud quand même d'assumer ça. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit pas question de refaire des casernements. Il a évoqué des financements d'entreprises, mais sans forcément être très explicite là-dessus. Donc voilà, je crois qu'il y a encore du grain à moudre avant d'arriver à vraiment un projet cohérent.
Patrick Appelmüller, est-ce qu'il faut rétablir le service national sous quelque forme que ce soit ? Il y a un manque de cohésion nationale dans le pays ?
Moi, je n'étais pas favorable à sa suppression. Donc,
pourquoi ?
Parce que je pense que la question de la défense nationale méritait d'être traitée par l'ensemble des citoyens et pas seulement par une armée de métiers, une armée professionnalisée.
Ce que dément aujourd'hui le ministère de la Défense qui nous dit que finalement la professionnalisation, c'est pas si mal.
Ils ont tous été faits pour ça. Et les militaires, évidemment, ils préfèrent avoir des militaires de métier. C'est une vieille histoire. Elle est très ancienne. Elle date de la Révolution française. Bon, mais je crois que la question n'est pas tellement là. Je crois que pour l'instant, personne ne sait ce qu'il veut faire. Le service militaire avec une vocation d'efficacité militaire dans une période de 3 ou 6 mois, c'est ridicule. Donc, je pense que ça n'a pas de fonction. Ensuite,
c'est finalement le service civique qu'on connaît aujourd'hui, si c'est pas du militaire.
Je pense que c'est d'abord une manifestation d'assez grande méfiance à l'égard des jeunes. Il faudrait les faire marcher ou pas pendant 6 mois pour qu'ils s'engagent. Je regrette, il y a des tas de jeunes qui s'engagent dans des associations. Ils n'ont pas besoin que ça soit obligatoire et ils peuvent réaliser un certain nombre de choses. Quant au mixage social, je suis assez curieux de voir comment se réaliseraient les choses. Le service national militaire avait grandement dérivé. Je l'ai fait quant à moi, mais avait grandement dérivé avec les enfants des milieux les plus favorisés qui évitaient de se retrouver précisément avec les autres dans les régiments d'infanterie en Allemagne.
Maud Guillemin, vous voulez réagir ?
C'est vrai que, je suis une femme, donc voilà, et en plus, j'ai pas l'âge, mais j'avais toujours entendu ça. Oui, c'est super, parce qu'il y a tous les milieux sociaux qui se retrouvaient. Après, moi, tout ce que j'entendais, c'est que pas du tout. En effet, vous faisiez de bonnes études, vous étiez bien placé. Voilà, j'ai écrit des livres sur des hommes politiques, je peux vous dire qu'à tous les coups, ils étaient super bien placés. Mais il y avait des privilégiés. Donc moi, je n'imagine pas 2 secondes et demie que ce service, s'il est obligatoire, ne va pas créer de la même manière des services qui seront intéressants et d'autres qui seront pas intéressants. En plus, il est déjà critiqué, vous venez de le faire, parce que il serait obligatoire et que l'engagement citoyen doit être doit être
un minimum
volontaire.
Ouais.
Et ça, il existe déjà. Et en plus, faut imaginer le coût et l'utilité. Je sais pas si aujourd'hui, cette espèce de mixité sociale, comme on l'imaginait dans les années 50-60, c'est merveilleux, on se retrouve tous ensemble en chambrée. Aujourd'hui, ça peut être pensé de la même manière. Ça me paraît pas possible. Et en plus, il y aurait la mixité homme-femme, donc ça vient encore poser d'autres soucis.
Après, il y a quand même deux idées qui étaient pas inintéressantes et qui méritent d'être développées. Le lien entre la nation et sa force de défense. C'était l'occasion de ce rendez-vous. C'est pas forcément une idée. Moi, je vous rejoins pas complètement sur les jeunes n'ont pas besoin de ça pour s'engager. Certes, et je crois que c'est pas l'enjeu. L'enjeu, il est de leur permettre de rencontrer, de se confronter à cette réalité-là. Alors évidemment, tout le monde ne va pas le faire, nous ne faisons aucune illusion. La version obligatoire au sens coercitif, on n'y arrivera pas, on n'y arrivait déjà pas dans les années 70, donc c'est faux. En revanche, ça permettait à tout un chacun de s'engager un peu dans cette notion de la défense nationale. Est-ce que c'est négatif ? À mes yeux, non. À mes yeux, je pense que ce lien avec la force qui est censée nous défendre, c'est aussi être citoyen.
Ça voudrait dire que vraiment ce soit lié vraiment avec l'armée, ce qui pour l'instant n'est pas complètement le cas. En effet, dans ces cas-là, il y aurait une logique.
Mais quel type de lien ? Est-ce qu'on est soi-même acteur ou est-ce qu'on est spectateur d'une sorte de théâtre qui serait présenté et qui justifierait un certain nombre de
politiques ? Mon service militaire s'est arrêté relativement vite. J'ai fait 3 mois de service militaire.
Moi, j'ai fait un an.
Mais dans le service militaire, militaire que j'ai fait, j'ai appris.
Il s'est arrêté pourquoi, si
un
certain nombre
pour des raisons médicales. Donc il se trouve que j'ai eu un accident à ce moment-là.
D'accord.
Mais
vous n'avez pas été exempté comme l'était beaucoup finalement de.
Non, j'étais à Tarascon sur Rhône et c'était tout à fait intéressant. Et j'ai appris un certain nombre de choses et j'ai été confronté. Pas dire que ça m'est servi plus tard. C'était pas la question. La question, c'est d'être confronté à une réalité qui n'était pas la mienne avant. Et en cela. Pour un certain nombre de jeunes, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais que d'être confronté à une réalité. Et on verra après si elle est utile dans leur formation, dans leur vie. Est-ce qu'elle sera utile à la France ? On le verra bien. Mais en tout cas, ça leur donnait la chance de cette rencontre.
Encore une fois, le gouvernement laisse le flou pour l'instant sur cette réforme. Voilà, la météo et l'info, et on revient sur le plateau des informés dans quelques minutes.
Économie. Toyota aurait décidé d'agrandir son usine d'Onin dans le Nord. Il ne s'agirait pas de construire une nouvelle voiture, mais de produire davantage de Yaris.
International.
Dans les négociations au sein de l'Union européenne, les Britanniques sont donc les premiers à tenter d'édulcorer les critères de désignation des paradis fiscaux.
Culture. La saga de Grimr pourrait faire croire à un énième récit d'heroic fantasy. Les personnages sont profonds, les dialogues ciselés.
Politique. Pour changer la Constitution, deux moyens existent. Soit faire voter une réforme dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, puis par au moins 3 parlementaires sur 5 réunis en congrès à Versailles, soit s'en remettre directement aux électeurs en organisant un référendum.
Pour l'info 24 heures sur 24, France Info, deux points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Voilà, le débat continue sur le plateau des informés. Jean-Michel Golinski à Météo France.
Lente progression des pluies océaniques vers l'est ce lundi jusqu'à la frontière belge l'après-midi, le bassin parisien, le centre et de l'ouest du massif central jusqu'aux Pyrénées avec de la neige au-dessus de 1300 mètres. Plus à l'est, après les brouillards givrants, la nébulosité sera plus marquée entre les Ardennes, la Bourgogne et l'Auvergne que le long des frontières. Belles éclaircies également pour le golfe du Lion et l'ouest de la Provence. En revanche, des Alpes du Sud à la Corse, le ciel beaucoup plus mitigé va s'accompagner d'averses et même de neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Les gelées vers moins 1 à moins 3 degrés seront fréquentes dans le quadrilatère Strasbourg-Lyon-Bourges-Reims. En journée, il est prévu 12 à 14 degrés du sud-ouest à la Méditerranée, 9 à 11 de la Bretagne au Poitou-Charentes, 7 à 9 du nord de la Loire au centre et en Rhône-Alpes et 5 à 7 sur la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Le retour de l'info avec Emmanuel Langlois.
À la disparition de Didier Lockwood, on vous l'annonçait tout à l'heure à 20h. Le violoniste avait 62 ans, né dans une famille musicienne. Il s'était rapidement orienté vers le jazz. Lockwood avait découvert le violon amplifié, intégré fin 74 le groupe de jazz rock Magma. En 94, il fêtait ses 20 ans de carrière avec près de 1800 concerts à travers le monde. Un an plus tard, il réalisait son premier album américain, New York Rendez-vous. Et puis en 2000, un nouvel album, cette fois hommage à Stéphane Grappelli. Martin Fourcade entre dans l'histoire des Jeux d'hiver après sa victoire à la photo finish de la Mass Start 15 km du biathlon. Il devient en effet le seul Français à avoir décroché 4 médailles d'or. Le skieur de fond romeux qui dépasse désormais Jean-Claude Killy, le triple champion olympique des Jeux de Grenoble en 1968. Dans son petit village de montagne dans les Pyrénées-Orientales à Yagonne, les habitants s'étaient réunis évidemment dans la salle des fêtes pour suivre l'épreuve et soutenir leur champion. Écoutez l'un de ses supporters, René.
C'est magnifique, c'est superbe pour Martin, tout le travail qu'il a accompli pour arriver à ça, c'est merveilleux parce que Martin est un grand athlète, un grand champion, il le mérite. Il y a 4 ans de ça, il l'a perdu d'une spatule contre Svensson et là aujourd'hui c'est lui qui gagne d'une spatule, c'est merveilleux, je suis content pour Martin, pour toute sa famille que l'on connaît bien nous à la Yagonne. Et encore merci Martin des joies que tu nous fais vivre, merci.
Un habitant de la Yagonne, le village de Martin Fourcade, au micro de Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon. Il était parti se battre contre le groupe État islamique aux côtés des forces kurdes. Olivier François-Jean Leclinche, un breton surnommé Kenal Breds, 41 ans, ex-ouvrier intérimaire, a été tué dans la région d'Afrin lors d'affrontements avec l'armée turque. Sa mort remonte à il y a 8 jours, mais on l'apprend seulement aujourd'hui. Prudence en montagne où la neige a tué 4 personnes ce dimanche au Mont d'Olm en Ariège. Un randonneur à ski dans le massif de l'Étale en Savoie, et puis à Val d'Isère où un père de famille a été emporté avec sa fille de 12 ans sur une piste fermée dans la partie haute du domaine. L'étranger, la Floride, des élèves survivants de la fusillade de mercredi annonce une manifestation le 24 mars à Washington pour réclamer un contrôle plus strict des armes à feu. Le drame de cette semaine a encore ravivé ce débat récurrent aux États-Unis. 2 adolescents palestiniens tués par des tirs israéliens, ça s'est passé dans la bande de Gaza. En représailles à une explosion dans laquelle 4 militaires de l'État hébreu ont été blessés. Ce regain de violence est le plus important dans le territoire depuis le conflit de 2014 entre Israël et le Hamas. Un mot de football, la 26e journée de Ligue 1 et Nantes qui reprend la 5e place au classement grâce à son match nul à Nice 1 partout. Lille arrache le nul face à Lyon 2-2. En attendant, Marseille contre Bordeaux ce soir à 21h et ce sera au stade Vélodrome. Les informés.
Les informés, Pierrick Bonneau.
Retour sur le plateau des informés avec nos 4 invités. Maud Guillemin, journaliste documentariste. Patrick Appelmüller, directeur de la rédaction de l'Humanité. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Et puis Alban Micosi, rédacteur en chef adjoint du service international de France 2. On va parler maintenant de la guerre ouverte, ou plutôt des guerres ouvertes à la droite de la droite. Jean-Marie Le Pen qui attaque de nouveau sa fille par médias interposés. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, cette image des 2 leaders de l'extrême droite en France, puisqu'il il y en a maintenant 2, Marine Le Pen, présidente du Front National, en déplacement à Lens ce matin, et puis Florian Philippot, son ancien bras droit, au congrès fondateur de son mouvement Les Patriotes à Arras cet après-midi. Écoutez, est-ce qu'ils pensent l'un de l'autre?
Le FN, embourbé, perdu, pathétique, qui a renoncé au pouvoir et ne cherche plus qu'à faire vivre la petite boutique, qui se rediabolise pour essayer d'exister, il faut bien exister.
Son mouvement n'existera pas. D'abord parce que je pense qu'il n'existe pas, ce mouvement, et il n'existera pas plus demain. Florian Philippot n'est pas un leader politique, il n'a pas d'espace politique.
Voilà, les 2 semblent considérer que l'autre n'existe pas. La guerre est engagée entre Marine Le Pen et Florian Philippot, Maud Guillaumin.
Oui, elle est engagée. Alors là où Marine Le Pen n'a pas complètement tort, c'est que pour l'instant, personne sait réellement qui sont les patriotes. Ils se sont déjà, Florian Philippot s'est présenté plusieurs fois lui-même sous l'étiquette FN, et il a eu très peu de voix, ce qui fait que c'est difficile, alors qu'on a porté déjà des élections en ayant peu de voix, de porter un mouvement. En plus, il est sur une ligne sociale souverainiste qui est en effet très étriquée, et on sait très bien qu'à chaque fois que le FN a voulu que, enfin, les gens de l'extrême droite se sont détachés de l'ethnocentrisme, le socle électoral a été très difficile à garder, et en effet, bon, on l'a vu avec les autres exemples, le MNR notamment en 98, c'était des ballons de baudruche. Aujourd'hui,
ils revendiquent 1500 adhérents, je crois.
Alors, ils montent jusqu'à 5000 partisans. Mais aujourd'hui, il faut quand même bien voir que qui est important au sein des patriotes, ce sont des députés européens. C'est Madame Montel, qui est c'est une force vive. Madame Montel, c'est, bon, pour l'instant, pareil, aux dernières élections, en janvier, elle a eu un tout petit score. Alors, eux, ils estiment aux patriotes que c'est normal, c'est un manque de notoriété, c'est le début du parti. Mais il faut bien dire que pourquoi Marine Le Pen dit qu'ils ne pourront pas exister, c'est parce qu'elle sait très bien que c'est très étriqué. Pourquoi? Parce que Laurent Wauquiez n'est pas loin, le sait parce qu'elle le subit directement, mais il y a également Asselineau et Dupont-Aignan. Ça fait quand même beaucoup de gens sur le même socle électoral.
Il y a de la place pour 2 partis d'extrême droite en France, clairement, Jean-Christophe Ploquin?
Ça, on va le savoir. Mais tout à l'heure, quand dans le lancement, vous disiez il y a 2 leaders d'extrême droite en France, je crois que c'est encore un peu tôt. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a 1 leader d'extrême droite, qui est effectivement Marine Le Pen. Et on a quelqu'un qui a fait sécession et qui, effectivement, est en train de voir, de chercher à exister par ses propres moyens. Mais je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour savoir si Florian Philippot va vraiment peser.
En tout cas, 2 chefs de parti.
Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on voit, c'est que le critère anti-européen va être majeur dans la campagne de Florian Philippot. On voit qu'il sait très bien que Marine Le Pen a été très gênée par la question européenne au moment de la présidentielle. Et elle continue finalement à être très gênée parce que le FN finalement veut rester dans la zone euro. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à inventer. On peut pas être anti-européen farouche quand on dit qu'on reste dans la zone euro. Donc là, il y a un paradoxe dans la position du FN qui est difficile à surmonter. Et pour Florian Philippot, lui, il y va à fond, et donc ni zone euro, ni Europe, et ça va être vraiment le critère et le combat qu'il va mener, effectivement, en misant sur les élections européennes de 2019, où il sera le plus anti-européen de tous les candidats et de toutes les listes, et il espère qu'il va pouvoir capitaliser là-dessus.
Patrick Appelmüller, il y a quoi exactement dans le programme de Florian Philippot? Est-ce qu'on le sait? On connaît ses positions européennes, on vient de le dire.
Oui, on connaît ses positions européennes. On sait aussi quand même que l'essentiel du socle du Front National, il en a été le porte-voix pendant des années.
Donc, le même programme?
Donc, il y a une grande partie qui est identique. Je suis assez d'accord avec l'analyse selon laquelle il n'y a pas un espace formidable pour Florian Philippot. Il va être très largement coincé. Je pense qu'il aura plus un effet de nuisance à l'égard de Marine Le Pen et du Front National parce qu'il met l'accent de façon permanente sur les renoncements, les flous, les ambiguïtés du Front National.
Et il va la rediaboliser.
Et d'une certaine manière, il va être aussi amené à la tirer sur un certain nombre de thématiques qui sont sans doute les plus porteuses de racisme, anti-immigrés, etc. Donc, je ne crois pas qu'il ait un très grand avenir. D'ailleurs, les scissions à l'extrême droite ont toujours été nombreuses. Depuis que le Front National existe, aucune est parvenu à exister ou à
réussir. Au sein même du Front National, Absolument. Je disais, la présidente du FN attaquée sur un deuxième front aujourd'hui, plus habituel finalement à celui de son père, Jean-Marie Le Pen, qui s'exprime dans les colonnes du journal du dimanche à propos du changement de nom du parti. Objectivement, c'est totalement absurde. Subjectivement, c'est une trahison de l'histoire du mouvement. C'est inexplicable et suspect, déclare l'ancien président du FN. Jean-Marie Le Pen appelle même les adhérents du FN à rejeter les statuts du Congrès. C'est quoi? C'est encore un caprice de Jean-Marie Le Pen, ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, en tout cas, oui, enfin, on sait que Jean-Marie Le Pen est quand même extrêmement marginalisé dans l'électorat.
A-t-il encore un poids aujourd'hui?
Ah bah oui.
Il a un pouvoir de nuisance, effectivement. Mais est-ce qu'il a un poids politique puissant? En tout cas, il n'a pas pu le démontrer ces dernières années.
Moi, je pense quand même que, alors là, pour le coup, lui, il défend, c'est normal, hein, il défend son héritage. Le FN, c'est lui, c'est toute sa vie. Donc, enlever ce nom, c'est l'éliminer vraiment complètement. Donc là, c'est
Est-ce qu'il est nocif pour Marine Le Pen?
Ah, bah, forcément, il lui a encore dit, vous avez entendu ce qu'il a dit là? Il lui a dit, mais de toute manière, tu ne pourras pas couper les liens, il faudra que tu te suicides. C'est encore des propos à la Jean-Marie Le Pen, pour pouvoir couper vraiment,
le lien entre nous. Il menace sa fille d'une bagarre de rue si elle lui refuse l'accès au Congrès.
Il a en même temps une grande utilité pour Marine Le Pen, c'est qu'il, lui, il procède d'une certaine diabolisation. Si le père est aussi haineux, la fille ne peut pas être si mauvaise. Mais je pense que s'il n'a pas d'influence, il ne va pas avoir de majorité parmi les militants du FN, je pense en revanche qu'il contribue à fissurer le socle sur lequel est Marine Le Pen, qui a de toute façon un vrai problème maintenant de crédibilité dans l'électorat, notamment populaire, qu'il avait soutenu, et je crois que ça va encore aggraver ça.
Allez, on va parler de Laurent Wauquiez dans la suite des informés. 20h40, l'info, Noémie Bonin.
Le monde du jazz en deuil ce soir après la mort de Didi Lockwood, grand violoniste français. Il avait 62 ans, jeune surdoué dès son adolescence. Il a joué avec les plus grandes stars du jazz mondial. La série noire en montagne aujourd'hui dans la station de Val d'Isère. Une fille de 12 ans et son père ont été emportés par une avalanche. Au sommet de l'Étale, toujours dans les Alpes, un randonneur a chuté sur plusieurs dizaines de mètres. Et puis en Ariège, enfin, un skieur s'est tué après un saut au Mont d'Olme, au moment même où la jeune championne olympique Perrine Laffont fêtait son retour. Les recherches sont suspendues désormais en Iran. Elles reprendront dès l'aube demain, si les conditions météo le permettent, pour retrouver les victimes de l'accident d'avion de ce matin. Ce soir, il neige encore avec de la pluie mélangée et puis du vent, ce qui complique bien sûr les opérations de sauvetage dans cette région montagneuse. L'appareil s'est écrasé avec 66 personnes à bord. Et puis en rugby, le Racing 92, seul désormais à la deuxième place du top 14 après sa victoire 19-12 ce soir contre La Rochelle. Courte victoire cet après-midi de Castres sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, 7-6.
France Info.
Les informés, Pierrick Bonneau.
Allez, revenons maintenant sur la polémique qui fait tanguer le camp Les Républicains depuis la fin de la semaine. Les propos sans filtre de Laurent Wauquiez qui s'en est pris devant des étudiants lyonnais à ses adversaires. Des propos enregistrés à son insu et diffusés vendredi dans l'émission Quotidien. On entend notamment le président du parti affirmer que Nicolas Sarkozy mettait ses ministres sur écoute.
Nicolas Sarkozy, il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos et vérifier ce que chacun de ses ministres disait.
Laurent Wauquiez donc enregistré à son insu. On entend dans ce même enregistrement Laurent Wauquiez accuser Emmanuel Macron d'avoir orchestré la chute de François Fillon. Maud Guillemin, vous me disiez que vous aviez eu des étudiants lyonnais qui ont assisté à cette conférence au téléphone.
Oui, et qui étaient absolument ravis. Mais ce qu'il faut dire qu'en fait c'était deux fois deux jours. Donc 6 heures une journée, 6 heures une autre journée, 12 heures en tout. Et vous avez vu, il y a eu 6 phrases. Donc là, il est vrai que ça reste quotidien l'émission. C'est des phrases choc. Ils ont réussi à sortir ces 6 phrases. Et ils m'ont un peu remis les choses en place. Par exemple, vous avez vu les photos sur Instagram d'Angela Merkel. Par exemple, ce passage-là, c'était pour expliquer le charisme et les différentes formes de charisme. L'histoire des manches retroussées en disant « Emmanuel Macron m'a copié », là aussi, c'était de l'humour. Nicolas Sarkozy aussi, c'était pour expliquer un petit peu ce qui se passait, le rapport des politiques aux médias, voilà. Donc en effet, ce sont quand même des phrases qui sont beaucoup sorties de leur contexte. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il avait pu être vraiment dupe et se dire que ce n'était pas possible que ça arrive. Et moi, je ne peux pas croire que quelqu'un d'aussi influent, important que Laurent Wauquiez, eh bien, soit très choqué de ce qui se passe. Non, tout ce qu'il a dit, même si en effet, il a voulu créer un rapport tout à fait proche de ces jeunes étudiants, parce qu'il faut quand même faire être sympa, faire cool, c'est quand même important, c'est le
MNU. Il y a d'autres façons d'être orateur.
Oui, mais à ce moment-là, mais c'est ce qu'il a aimé. Et alors, j'ai quelque chose à préciser quand même, c'est que ce sont des réponses à des questions d'élèves. Ce n'est pas dans son cours, tout ce qu'on a entendu. Ouais. Et il a demandé vraiment aux élèves de le challenger. Il voulait vraiment, il leur a dit, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et ils l'ont fait, ils ont eu le droit de le faire. Après, comme il est quand même quelqu'un d'intelligent et surtout de très professionnel, il sait comment répondre, donc je ne peux pas croire une seule seconde que ce soit vraiment des dérapages.
Voilà. Donc ce n'est pas vraiment un piège, Patrick Appelmüller?
Ah, moi je ne crois pas que ce soit un piège. Je sais que la communication Richard Virenque aujourd'hui, à l'insu de mon plein gré, etc., personne ne peut y croire. Il est lui-même enseignant, il a suivi des grandes écoles, il sait qu'il a un public qui est un public d'étudiants dans une des plus grandes écoles de management et de commerce de Lyon. Il sait très bien que les phrases seront entendues et relevées. Je pense que ça relève en revanche d'une forme de communication à la Trump. Il veut faire vrai, il veut faire direct, il n'hésite pas à attaquer tout le monde, même à droite. Et il flatte là un certain électorat de droite qui s'est retrouvé d'ailleurs largement autour de lui lors de l'élection chez les Républicains et qu'il veut essayer, en rajoutant sur ce terrain-là, de battre un peu Marine Le Pen sur le terrain des Le Pen.
Vous disiez à la Trump, Patrick Appelmüller, je vous propose d'écouter les réactions politiques, deux en tout cas d'entre elles, il y en a eu beaucoup, celle du député des Hauts-de-Seine, Gabriel Attal, député LREM d'abord, et celle de l'ancien membre du parti Les Républicains, Xavier Bertrand, président de la région de France.
C'est pas au niveau, je veux dire, il y a un ramassis de bêtises là-dedans, mais il y a des choses graves quand même. Et moi, je trouve que Laurent Wauquiez doit s'expliquer, que pour l'instant, il l'a pas fait.
Vous savez pas que c'est Laurent Wauquiez qui parle? Ça pourrait être un des membres de la famille Le Pen. C'est la même tonalité. C'est la même violence.
C'est pas un accident, ça ne vous surprend pas.
Mais c'est du Trump, c'est pire que Trump. Certains veulent trumpiser la vie politique française.
Marine Le Pen, Donald Trump, on est dans le même registre, Jean-Christophe Ploquin?
Je pense que les précisions qui ont été apportées tout à l'heure sont extrêmement importantes.
Qu'on n'avait pas entendu d'ailleurs jusqu'ici.
Et voilà. Ça change tout.
C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez pas faire... Xavier Bertrand, sans doute, le savait pas quand il a fait ce commentaire. Même si, de toute façon, il y a une animosité entre Xavier Bertrand et Wauquiez qui fait qu'il le redira sans doute. Mais de toute façon, effectivement, si ce sont 6 phrases extraites de 6 heures, vous pouvez
12
plus...
heures.
c'est quand même très compliqué de faire des commentaires sur 30 secondes, sur 12 heures. Donc, ce qu'on peut comprendre quand même, c'est que, et ça, on le savait déjà un petit peu, c'est que le style Wauquiez, effectivement, c'est pas le style Macron, c'est pas le style Fillon non plus, par exemple, hein, pour être dans la même famille politique. Et donc, là, on a quelqu'un, effectivement, qui a presque un rapport physique, de toute façon, avec la politique, enfin, qui a un tempérament assez rentre-dedans, cash, effectivement. Après, le monde politique, il regorge de petites phrases dans tous les camps, dans tous les partis. Et donc là, on a eu effectivement six petites phrases qui, de fait, pouvaient créer un certain émoi. Bon, la façon dont il considère qu'effectivement Emmanuel Macron est responsable de la défaite de Fillon, enfin, pas sur le plan politique, mais parce qu'il a tout manipulé, ce serait intéressant de le titiller un petit peu et qu'il en dise un peu plus sur ce sujet.
Pour voir, parce qu'il parle notamment du bullshit qu'il dit sur les plateaux politiques. Donc ça, je leur ai demandé si ça les avait choqués. Bah, non, au contraire, parce que justement, ils avaient vraiment l'impression que là, il allait leur parler directement, il allait leur montrer les coulisses de la politique, et ces 2 fois 6 heures étaient là pour ça. Donc, ces petits jeunes d'école de commerce, ils étaient absolument ravis.
On est clairement dans la communication trumpienne, c'est-à-dire, on n'utilise plus le canal habituel pour s'exprimer, mais on utilise des canaux tels les tweets, les rencontres avec les étudiants, pour parler vrai. C'est ce qu'on dit aux États-Unis. On dit, là, il a parlé vrai. Bon, il n'a pas parlé vrai. Il a parlé un peu plus fort que d'habitude. Objectivement, quand il dit Angela Merkel n'a pas de charisme, Angela Merkel s'en fout de ce que Laurent Wauquiez pense.
C'est ce qu'il voulait montrer.
En Allemagne, la notion de charisme, elle ne tient pas au fait que vous parlez fort ou pas fort. Elle est au pouvoir en Allemagne depuis maintenant 3 mandats. Elle va en faire un 4e. Elle se fiche totalement de ce que pense Laurent Wauquiez.
Il voulait montrer justement que, par rapport à Angela Merkel, c'est que justement, il y avait plusieurs formes d'incarner la politique, et que justement, Angela, elle n'était pas sur les réseaux sociaux comme plein d'autres.
À la limite, sa phrase la plus gênante, c'est celle sur Nicolas Sarkozy.
Ah oui.
Parce que qui critique Emmanuel Macron, je dirais qu'il est dans son rôle. Qui s'en prenne à Gérald Darmanin.
Ça a été démenti, d'ailleurs,
sur le fond de l'affaire.
Par Dominique Bussereau, notamment.
C'est un adversaire politique aujourd'hui. Bon, en revanche, il s'en prend à Nicolas Sarkozy, qui est toujours populaire dans l'électorat de droite, dans l'électorat qui finalement a fait Laurent Wauquiez aujourd'hui. Donc ça peut lui revenir comme un boomerang pour le reste.
Juste un mot.
C'est de la parole attendue.
Patrick Appelmüller, sur le fond, finalement, parce qu'on parle de la forme, mais sur le fond, il ne se trahit pas, c'est ses idées qui ressortent de ses propos.
Ah ça, je crois que ce sont ses idées. Chaque phrase répond à une ambition politique. Quand il tape sur Macron de façon sans doute excessive, il se pose en opposant. Quand il tape sur Nicolas Sarkozy, ça n'est pas une erreur. Il a besoin de se dégager de la tutelle de Nicolas Sarkozy.
Et Angela Merkel incarne l'Europe.
Ben oui, donc il est totalement sur son registre. Et oui, je crois que c'est une communication trumpienne.
Donc, vous écoutez, vous êtes tous d'accord. Cette communication trumpienne. Enfin, Trump, c'est quand même le tweet permanent. C'est lui-même qui est à la manœuvre dans cette communication extrêmement agressive et déstabilisatrice. Là, on est quand même dans une sphère, encore une fois, une sphère qui était censée être privée. Je ne fais pas le parallèle. Peut-être que ça ferait plaisir à Wauquiez d'être comparé à Trump, mais je crois qu'il est quand même un cran nettement en dessous.
Alors, vous faites une transition parfaite, puisqu'on va parler de Donald Trump, justement, juste après l'info, à 20h50, signé Noémie Bonin.
Un dimanche bien tragique en montagne. Un randonneur à ski s'est tué en gravissant le sommet de l'Étale entre la Savoie et la Haute-Savoie dans la station de Val d'Isère. Cette fois, un père de famille et sa fille de 12 ans ont été emportés par une avalanche. En Ariège, enfin, alors que la station des Monts d'Olme fêtait le retour de l'enfant du pays, la médaillée olympique Perrine Laffont, un jeune skieur est mort après un saut. Musicien réputé à travers le monde, Didier Lockwood est mort aujourd'hui à l'âge de 62 ans. Violoniste de jazz, il a collaboré notamment avec Claude Nougaro, Barbara ou encore Jacques Higelin. Un Français tué en Syrie la semaine dernière, on l'apprend ce soir. Il combattait au sein des milices kurdes contre Daesh. Il a été visé au cours d'affrontements dans la région d'Afrin, cible d'une offensive turque depuis plusieurs semaines. Si vous êtes sensible à la pollution, soyez prudent. Demain, la préfecture de police de Paris annonce que le taux de particules fines risque de dépasser le seuil normal en Ile-de-France. Les autorités recommandent notamment aux automobilistes de réduire leur vitesse. Et puis en foot, Marseille s'apprête à affronter Bordeaux dans 10 minutes. Tout à l'heure, Lyon a concédé le match nul à Lille, 2-2. L'OL en difficulté depuis plusieurs semaines. Les Lyonnais n'ont plus gagné depuis 4 matchs en Ligue 1.
France Info.
Les informés, Pierrick Bonneau.
Allez, on part aux États-Unis après la fusillade qui a coûté la vie à 17 personnes mercredi dans un lycée de Floride. La société américaine est-elle prête à remettre en cause ce droit fondamental de posséder une arme ? La Maison-Blanche va-t-elle finalement ouvrir le débat ? C'est ce que demande en tout cas cette lycéenne survivante de la fusillade de mercredi dans cette vidéo qui a fait le tour du monde.
Si le président me dit en face que c'était une terrible tragédie, que ça n'aurait jamais dû arriver et qu'il continue à nous dire que rien ne sera fait, je lui demanderai combien il a touché de la National Rifle Association.
Voilà pour le témoignage de cette survivante lycéenne. Survivants qui ont annoncé une manifestation fin mars pour réclamer un contrôle plus strict des armes à feu. Alban Micosi, j'ai une question à vous poser. Peut-on assister à une mobilisation populaire contre les armes aux États-Unis ?
Je ne pense pas. Et en tout cas, que se passera-t-il dans la Maison-Blanche ? Absolument rien. Donald Trump va maintenir le deuxième amendement. Il y est lui-même très attaché. Et il estime que ce qui s'est passé dans cette école de Floride n'a rien à voir avec l'usage des armes. Alors, je vais même aller plus loin. Et je vais encore me faire des amis à l'ambassade des États-Unis. Mais quoi de plus obscène que le geste de Donald Trump sortant de l'hôpital où il est allé ? Le pouce en l'air, comme ça. Mais qu'est-ce qu'il célèbre ? Eh bien, il parle à son électorat, encore une fois, Donald Trump. Il a entendu, sans doute, les propos de la jeune Emma Gonzalez. Il va trouver, donc, cette étudiante, il va trouver qu'elle a un nom bien mexicain, pour être honnête, et que lui, en tout cas, s'appuie sur son électorat, et que son électorat est favorable au maintien de l'usage des armes à feu aux États-Unis. Barack Obama a été président pendant 8 ans. Qu'a-t-il fait ? Rien. Que peut-on faire ? Rien. Je vais vous donner 3 chiffres qui sont extraordinaires. 12 000 morts par an, hors suicide et tuerie familiale. 12 000 morts par an tués par balle aux États-Unis. Or, il y a à peu près autant d'armes aux États-Unis, proportionnellement à la population, qu'en Suisse ou en Finlande, qui sont des pays où le port d'armes est autorisé. En Suisse et en Finlande, pour des raisons de service militaire citoyen, on va dire. En Suisse et en Finlande, ça n'arrive pas. Ça arrive aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, ce qui s'est passé en Floride ne choque pas les Américains.
C'est un débat impossible aux États-Unis, Patrick Appelmuller ?
Je ne crois pas que ce soit un débat impossible. Ce débat, il existe déjà. C'est vrai que c'est dans la culture américaine que de porter des armes. Et c'est un pays où on a forgé son espace à coups de pétard contre les Indiens, contre les Mexicains, contre etc. Et c'est vrai que l'usage de l'arme est l'indice d'une virilité américaine. Mais beaucoup de choses sont en train de bouger aux États-Unis. Cette jeunesse qui s'est retrouvée autour de Sanders, ces gens qui se sont retrouvés aussi autour d'Obama, je pense qu'il y a des choses qui basculent sur, je dirais presque de façon démographique peu à peu. Ça s'est pas senti lors de ces élections avec Trump qui a réussi remarquablement à mobiliser un électorat petit blanc, réactionnaire, avec le soutien, parce que la jeune fille, la Emma Gonzalez, elle précise que c'est 30 millions de dollars qu'il a touché de l'association de la NRA. Donc, effectivement, il est totalement là-dedans, mais moi, je pense que dans la population des grandes villes, cette population californienne, cette population, etc., il y a des choses qui sont en train de bouger et qui ne sont plus l'Amérique.
Mais je vous repose la question, est-ce qu'on peut assister à une mobilisation populaire ? Est-ce que les gens vont se mobiliser pour ouvrir le débat ?
Je pense que peu à peu, on peut y assister. Il y a des mouvements qui se sont déroulés très forts, parce qu'on oublie de dire que le mouvement MeToo, il a commencé par des manifestations de femmes contre les propos de Donald Trump. C'était pas l'affaire Weinstein qui a lancé le mouvement des femmes aux États-Unis. Je pense que des mouvements de ce type peuvent se développer aux États-Unis, ça prendra peut-être des
personnellement,
années.
Personnellement, je n'y crois pas.
Je n'y crois pas. Et
Jean-Christophe Ploquin, vous a pas entendu ?
Effectivement, je pense que ça va être très compliqué.
Vous n'y croyez pas non plus ?
Non, parce que quand Barack Obama était effectivement à la Maison Blanche, il y a eu des tragédies au moins aussi terribles et voire plus terribles, notamment dans cette école où il y a eu tant de petits enfants en bas âge qui avaient été assassinés par un tueur comme ça. Et Barack Obama avait mis un peu tout son poids dans la balance. Il s'est heurté effectivement au Congrès à tous ces élus qui sont dans la campagne est en partie financée, effectivement, par cette puissante National Rifle Association. Et donc, il y a vraiment un lobby des armes extrêmement puissant et qui est accroché à une culture, effectivement, effectivement un petit peu de la vengeance, de la revanche personnelle. On se fait vengeance soi-même.
Et de la liberté soi-même de vraiment de pouvoir se défendre. Mais aussi, je veux dire, les libertariens ont un rôle encore très important aux États-Unis. Ils sont contre le contrôle de l'État. Mmh. La liberté, c'est quelque chose, à leur définition, qui est complètement étrangère à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ils n'ont pas de carte d'identité, par exemple, et ils se battent contre, parce que pour eux, c'est vraiment être pieds et poings liés. Eh bien, les armes, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment une forme de sa propre liberté. Et en effet, il y a plein de gens qui pensent que quand on passe à l'acte comme ça, c'est un problème mental et qu'on passerait à l'acte avec autre chose. Mais que le problème n'est pas l'arme. Le problème, c'est ce qu'il y a dans la tête. Même si, en effet, la jeune fille l'a dit, on tue beaucoup plus de monde avec des armes qu'avec un couteau.
Je vais vous citer ce tweet de Donald Trump ce week-end qui préfère mettre en cause le FBI. Je cite le tweet. Très triste que le bureau fédéral soit passé à côté de tous les signaux envoyés par le tireur de l'école en Floride. Ce n'est pas acceptable. Voilà ce qu'écrit Donald Trump.
Ce qui, au passage, est un vrai problème, parce qu'on peut considérer que le jeune homme en question avait envoyé sur les réseaux sociaux à peu près tous les signes de sa folie meurtrière.
Mais est-ce qu'il ne préfère pas mettre la faute sur le FBI plutôt que de considérer qu'il y a un problème avec les armes?
De toute façon, il est en guerre contre le FBI.
Ça l'arrange bien, oui.
Ça l'arrange, à tout
prendre. On a quand même l'impression que, du coup, il y a effectivement un réseau de services sociaux qui n'existe pas aux États-Unis. Ou en tout cas, s'il existe, là, il a été totalement inopérationnel, parce que vraiment, effectivement, entre les photos qu'il mettait son compte Facebook, entre les déclarations où il disait qu'il allait régler son compte à son école.
Son adhésion suprématiste blanc.
Exactement. Les anciens élèves n'ont pas été du tout surpris qu'il ait commis ça. Donc tous les clignotants étaient quand même là et il n'y a eu personne, aucune structure sociale pour finalement l'arrêter avant.
Tous les clignotants rouges et un chiffre qui est impressionnant.
En
20 ans, on pourrait penser que cet attachement aux armes a diminué. En 20 ans, le nombre d'armes en circulation aux États-Unis a augmenté de 71%.
Ce chiffre dit tout. Merci à vous quatre. Maud Guillaumin, journaliste et documentariste. Patrick Appelmüller, directeur de la rédaction de l'Humanité. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix et puis Allemand Micosi, notre confrère de France 2. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France Info.